Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de Par les temps qui courent. Tous les soirs, pendant une heure, nous rencontrons des artistes. Ce soir, c'est un plaisir de recevoir Fred Fraisse.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Fred Frith.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Alors d'abord, joyeux anniversaire, car c'est à l'occasion de vos 70 ans que les Instants Chavirés, réjouissante scène montreuilloise en Ile-de-France, programme une série de concerts en forme de carte blanche qui vous voit jouer en compagnie de la pianiste Christine Vaudraska, le guitariste Jean-Yves Évrard, les musiciens John Greaves, Chris Cutler, Bérangère Maximin, bref. Un anniversaire qui rassemble, ouvre, déploie, improvise, comme vous le faites avec votre musique et vos multiples projets depuis officiellement 45 ans et votre disque guitare solo, et officieusement évidemment depuis beaucoup plus longtemps, car c'est à 5 ans, au milieu d'une famille très mélomane, qu'on vous met un violon entre les mains, non sans vous avoir demandé d'attendre un peu avant de le toucher, mais on racontera ça peut-être tout à l'heure. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Fred Fraisse, soyez le bienvenu.
Thank you.
J'ai en souvenir une scène d'un film qui a été important à la fois dans votre parcours, mais aussi pour ceux et celles qui l'ont vu, Step Across the Border. Vous êtes dans la rue, dans un restaurant, quelqu'un est en train de préparer à manger et vous racontez comment vous entraînez à parler français.
Ah.
Et je me demande, avec les années qui ont passé depuis ce film-là, comment va votre français ?
Plus ou moins ok, je pense.
Vous avez continué à vous entraîner ?
Entraîner, c'est une autre chose, mais je travaille beaucoup dans les pays francophones, donc c'est forcément obligatoire que je communique.
Vous avez un goût pour cette langue-là en particulier ?
Un quoi ?
Un goût.
De quoi ?
Pour le français.
Oh !
Pas plus que pour autre chose.
Ben, c'est pas... Tout, c'est pas la langue, c'est l'endroit. C'est-à-dire que mon histoire musicale commence même en France et continue en France beaucoup jusqu'à maintenant. Parce que dans les années 60, j'ai fait des échanges familiales avec une famille à Dijon. Et là, j'ai monté un concert solo pour eux avec un vieux ferrographe que j'ai enregistré les bouts rythmiques. Et puis, je chante et je joue l'autre partition par-dessous pour la famille, 7 personnes dans le living room. Et puis, c'est comme ça que c'est les premières performances. C'était en France comme ça.
Du côté de Dijon. Et depuis, bah, en effet, il y a cet anniversaire qui a lieu en ce moment à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, aux Instants Chavirés. Et en effet, finalement, vous avez souvent joué en Europe et en France. Quoi, c'est un pays qui s'est rendu curieux de la musique que vous faites ?
Ça, absolument. Mais aussi, c'est une question de... un certain sens d'aventure institutionnelle, c'est-à-dire que je suis invité à Marseille pour travailler avec les jeunes rockers en chômage des quartiers défavorisés, puis on fait un opéra, c'est un travail de 6 mois très intensif qui a franchement changé ma vie, ça c'était en 90, et puis depuis j'étais compositeur en résidence dans École nationale de musique de Villeurbanne, pour monter un projet qui réunissait tous les départements différents de l'école. Ce genre d'initiative, ça fait très peu ailleurs.
Ça fait du bien de l'entendre dire de temps en temps. Puisque vous mentionnez ce projet dans les années 90 et que vous dites souvent, Fred Fraisse, que c'est quelque chose qui a vraiment modifié, je ne sais pas quoi, peut-être votre vie intérieure ou même votre rapport au son, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille avec ces jeunes gens ?
C'était comme ça. Il y a François-Michel Pesanti qui a un théâtre, le théâtre du Point Aveugle. Il voulait monter un opéra, il voulait m'engager comme compositeur et il a suggéré l'idée de monter ça comme un projet social. Et ils l'ont acheté. Et puis donc, je devais d'abord choisir 15 musiciens d'un groupe d'une trentaine. Et ces gens étaient payés pour travailler avec moi pendant 6 mois, 9 à 5 tous les jours. Donc pour eux, c'était aussi une manière d'échapper au chômage, ainsi qu'avoir un développement musical. Et je pense qu'après que j'ai choisi les 15 musiciens qui ont monté le projet, il y avait 2 qui lient la musique, le reste non. Et donc, comme on fait un opéra avec des chanteuses professionnelles, sans partition. Et donc, la manière de développer une manière de travailler ensemble sans partition, c'est-à-dire beaucoup de mémoire, beaucoup de pratique, beaucoup de flexibilité. En effet, on a réussi à avoir un résultat très sophistiqué au niveau structurel. On pouvait avoir 3 morceaux différents qui se passent en même temps, spontanément gérés par un directeur. Et ça change tous les soirs, c'est différent. Donc c'était énormément flexible et improvisationnel, mais avec des partitions qu'ils ont apprises à cœur. Et j'ai réussi à... j'ai compris que les partitions, parfois, c'est un piège. Et les gens qui ont la capacité de faire des partitions incroyablement bien, je travaille juste après avec l'ensemble moderne, et évidemment, ils peuvent lire tout immédiatement. Mais la possibilité de faire beyond that, c'était très difficile.
D'aller au-delà de ça, ouais. Au-delà de la partition.
Ouais. Et donc, quelque part, les jeunes Marseillais ont eu une possibilité de marcher plus loin avec la matière que l'ensemble moderne. C'est que l'ensemble moderne dépend sur la partition. Tu dois dire quoi faire. Et tu dis quoi faire, il fait tout. Mais moi, je travaille pas comme ça. Je travaille comme avec une partition. Pour moi, c'est un commencement, c'est pas une fin. C'est-à-dire, ça, c'est une suggestion, et après, on va développer selon ce qui se passe. Et donc, ça a changé beaucoup mon attitude à Marseille, de réaliser que la partition, c'est pas trop important.
Ça ouvre aussi des possibilités de partage, Fred Frith, parce que d'un seul coup, en choisissant des musiciens dont seulement 2 d'entre eux étaient capables de lire la musique sur partition et tous les autres non, ben vous ouvrez aussi les possibilités de faire de la musique avec plein de gens différents, et pas seulement des gens qui savent lire.
Oui, et je pense que j'ai un peu compartimentalisé les choses avant. Il y avait ce genre de musiciens et ce genre de musiciens, et ils doivent faire comme ça avec eux et comme ça avec les autres. Et je pense que j'ai développé depuis une manière de planifier la musique un peu plus ouvertement. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'une partition, je génère une partition. Sinon, on fait autrement. Et on partage plusieurs, ou on mélange plusieurs approches différentes selon projet. Et ça, c'est très riche pour moi.
Vous avez plaisir à écrire des partitions ?
Oui. Le seul problème, c'est que j'ai l'habitude de faire des partitions et puis, comme toujours dans le monde classique, il y a 1 ou 2 performances et puis c'est oublié. Alors, j'aime bien que la musique prend sa vie et la partition, comme pour moi, c'est le commencement. Si on a 2 concerts seulement et après, c'est fini, c'est-à-dire que la partition n'aboutisse quelque part. C'est un truc vivant, c'est pas un musée.
Quand vous enseignez aujourd'hui, vous le faites encore, d'enseigner la composition musicale ?
Composition, je suis en retraite.
Bravo.
J'ai fait composition et improvisation à Mills College en Californie pendant 20 ans. Là, c'est fini, mais je continue à enseigner l'improvisation à la Music Academy de Bâle, en Suisse. Et ça se continue jusqu'à l'année prochaine.
Et après, c'est la retraite.
Après, c'est la retraite totale. C'est le cocktail, c'est le...
Comment on enseigne de l'improvisation ? Comment on enseigne, à Bâle ou ailleurs, à des gens plus ou moins jeunes, à improviser ?
Comment est-ce qu'on apprend des choses, en tout cas, n'importe quoi ? Ce n'est pas une question différente à comment on apprend les choses en général. Je pense que le problème, c'est que, comment on dit ça, l'idée de ce que c'est qu'apprendre quelque chose. Je pense que, pour moi, les deux grandes faillites d'être professeur, d'abord, c'est que vous pensez que apprendre les choses, c'est dire aux gens ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas enseigner. Et le pire, c'est que les étudiants attendent que vous fassiez ça, et si vous ne le faites pas,
ils sont déçus.
Ils pensent qu'ils n'ont pas appris quelque chose. Et pour moi, teaching, c'est d'abord encouragement, évidemment. Deuxièmement, aider les étudiants support. C'est pas supporter.
C'est pas encourager non plus ?
Non, c'est question de aider les étudiants de réaliser le but créatif avec suggestions ou possibilités.
Accompagner ?
Oui, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que moi, je veux donner des supports au niveau... vous voulez faire quelque chose. Et moi, j'ai dit OK. Si vous voulez faire ça, est-ce que vous avez considéré ça ou ça ? Est-ce que vous avez écouté ça ou lu ça ? Tu donnes des idées...
Des impulsions, des ingrédients.
Mais c'est pas que je veux que vous faites ça. Ce que je veux, c'est que vous faites ce que vous voulez. Mais faire ça bien et avec conséquence et avec diligence. Donc, pour moi, c'est une question d'ouverture vers l'étudiant pour voir ce qu'elle veut faire et comment elle va le réaliser et tout ça.
Alors, tout ça, ça s'arrête dans un an, mais vous avez eu... plaisir à enseigner pendant toutes ces années, Fred Fries ?
Yes.
C'était une partie importante de votre vie, j'imagine, bien sûr, mais aussi de votre vie de musicien ?
Non, j'ai une passion. J'aime beaucoup. Ça va me manquer un peu. Mais pas trop.
À vous les cocktails. Allez, on écoute un autre musicien, Sakamoto Hiromichi.
Ce qui m'a d'abord attiré, ce n'était pas le son de l'instrument, mais sa forme. Il faut dire qu'au départ, on ne sait pas jouer. On n'a pas une idée claire du son. J'aimais beaucoup regarder le violoncelle en tant qu'objet. Je trouvais cette forme très belle. Je ne m'en lassais jamais. Je n'ai jamais vraiment appris à jouer. Je joue juste comme j'en ai. Avant d'être musicien, j'ai passé un diplôme de médecine naturelle. J'étais fasciné par le corps et son fonctionnement. Dès cette époque, mes centres d'intérêt étaient le corps. Le corps et sa mémoire. En particulier, les manies à travers lesquelles il s'exprime. Toutes les manifestations impromptues du corps. On peut dire que je suis un empilement de manie. Lors de l'apprentissage d'un instrument classique, la norme est de corriger, d'aplanir ses manies pour obtenir un jeu neutre. On se forme à pouvoir jouer n'importe quoi. Faire disparaître ses manies est la base de l'apprentissage musical. Mais moi, je préfère empiler d'autres manies au-dessus de mes manies. Encore et encore. J'explore la possibilité de faire disparaître mes manies en les empilant les unes sur les autres. Toutes mes compositions trouvent leur origine dans des manies. celle de mes mains, de mon corps ou de mes oreilles.
En
fait, je ne compose jamais avec mon cerveau.
New Shoes, du disque Guitar Solo 1974, Fred Frith. C'est juste avant un extrait de Sora Mimi, l'illusion sonore, un documentaire de Gaspard Quens, Cédric Dupire, sur le musicien Sakamoto Hiromichi, qui dit que finalement, peut-être contrairement à vous, n'ayant pas eu d'apprentissage classique de son instrument, le violoncelle, c'est un grand improvisateur japonais, il a plutôt travaillé avec ses manies et la mémoire de son corps. Comment vous avez justement, comment on pourrait dire, dealé avec cet apprentissage classique du violon par la suite?
D'abord, je n'étais pas très traditionnel. Je suis toujours très reconnaissant de ma première prof. Elle était très expérimental. J'avais 5 ans. Un garçon de 5 ans, c'est difficile, j'imagine.
Ça bouge.
Ça bouge beaucoup. Et elle a commencé en disant, il ne faut pas toucher le violon. Il faut d'abord apprendre comment se détendre. Et elle a fait des exercices de détention avec les doigts, avec les mains, avec les elbows.
Les coudes.
Et puis, après 6 mois, j'étais permis de peut-être jouer un peu avec l'archet sans le violon pour avoir un sens de... Hein. Et après encore 1 mois, je commence à faire un son, mais c'était pas au niveau partition ou choses comme ça, c'était une manière
se placer avec l'instrument et ce ressentiment. Et je pense que c'était extraordinaire, quand je repense à ça maintenant, que elle a fait ça d'abord, que mes parents étaient d'accord. Et j'ai appris beaucoup, je pense, pour la vie, de cette idée du détention du corps, la manière de se détendre, de se vider un peu même. Ce qui est très normal maintenant, on parle de ça. Mais à l'époque, dans les années 50, c'était complètement nouveau. I'm very grateful.
Vous gardez ça encore en vous, par exemple, avant de vous lancer dans un concert, une improvisation, ou je sais pas, même de travailler pour vous, tout seul? Il y a quelque chose qui commence toujours par la détente et le vide?
Absolument, absolument. Et après, on s'est déménagé dans une autre ville. J'avais un autre prof qui était très classique, typique, était un homme un peu sévère qui avait beaucoup de plaisir de couper mes ongles et puis un peu sadiste dans ma tête. Mais après, le plaisir de jouer partait assez rapidement. Et quand j'arrive à 13 ans... Je ne voulais plus. J'ai trouvé une guitare, ma vie a changé dans un autre sens complètement. Et j'ai laissé tomber le violon pour 5 ans. Et puis je l'ai redécouvert dans Henry Cow, parce que c'était utile d'avoir quand même des partitions violentes dans ce qu'on faisait. Donc j'ai repris. Mais je ne suis pas un violoniste.
Vous êtes quoi alors?
Je ne sais pas. Je joue la guitare, c'est vrai. Mais en fait...
Plus que tout le reste?
Je suis musicien. I like to make things.
Vous aimez bien faire des choses. Justement, quand vous parlez du plaisir de jouer qui est peut-être retrouvé avec la découverte de la guitare, dans ce qu'on entend, New Shoes, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose d'une énergie vitale très profonde, quoi. Moi, ça me donne envie de sautiller d'entendre cette musique-là. Comme si on ne pouvait pas faire plus vivant. Comment vous expliquez ça? S'il faut l'expliquer, je ne sais pas.
Bon point. Est-ce qu'il faut l'expliquer? Je pense que... Musique, c'est d'abord le mouvement d'air. Deuxièmement, une espèce d'énergie qui se transfère de l'instrument dans l'air, et puis aussi c'est une forme de magie. C'est-à-dire, pour moi, on crée des choses sans savoir ce qu'on fait, et bien, il y a le lapin qui sort du chapeau. C'est un peu comme ça, et je garde ça, je veux garder ça. Je ne veux pas que ce soit un exercice technique, je ne veux pas montrer mon technique, je ne veux pas tout ça. Ce que je veux, c'est qu'il y a des choses qui sortent dans le moment que moi, je ne peux pas prévoir. Et puis ça arrive. Et parfois ça n'arrive pas. Et il faut toujours prendre ce risque, à mon avis.
Que ça n'arrive pas.
Ouais. Avec improvisation, on prend ce risque chaque fois. Et ça donne l'énergie.
Vous dites qu'il y a des choses qui sortent, mais moi j'entends aussi qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Comme si un morceau ou un moment de musique, c'était aussi un espace, alors plus ou moins vide et détendu, dans lequel des choses pouvaient... arriver, traverser à toute vitesse. Et je pense à cette maison dont vous racontez, Fred Frith, dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui était remplie de plein de musiques très différentes, en fait. Certains écoutaient un truc dans une pièce, les autres écoutaient autre chose, et d'une certaine manière, c'est comme si votre musique, elle était la témoin de porte ouverte, quoi.
Ok. Non, mais c'est vrai, mon père était plutôt dans le classique et mon frère plus âgé, c'était à l'époque un peu dans le jazz. Et Simon, c'est un célèbre critique de pop. Alors, tu vois, il y a des lignes différentes et j'étais autour de moi tout le temps et on se battait pour avoir la platine, tu vois. Et puis, c'était comme ça que j'ai appris.
Mais quand même, il y a des Beatles à un moment donné.
Beatles?
Ouais, qui vous arrêtent.
Claro, évidemment, ouais.
Bah, pas pour tout le monde, hein. Et qui vous arrêtent notamment, par exemple, sur les partitions rythmiques. Pourquoi?
Je pense que c'est ça qui est le cœur de tout ce que je fais, c'est que je suis fasciné par le rythmique, par le rythme. Comme compositeur, c'est le rythme qui me donne l'impulse de faire des choses. Je réalise ça plus en plus. C'est vrai que j'aime les sons, et puis les textures, et puis mélodies, et puis ça. Mais rythmique, ça, c'est le cœur de tout.
Et pourtant, vous n'avez pas choisi de... Vous avez plutôt choisi la guitare que la batterie ou les congas, quoi.
Tu sais, un des moments les plus fiers de ma vie, c'est que il y avait une interview avec Miles Davis par Jazz Mag dans les années 80, non, 90 même. Et puis, ils ont demandé à Miles « Qui fait battre ton cœur ?» Et il a dit « Fred Frith, c'est un grand batteur. » Et alors, le rédacteur de Jazz Mag a dit « Non, c'est pas possible, il y a un guitariste, il faut lui téléphoner pour vérifier qu'il a dit. » Et puis, donc, le pauvre intervieweur a téléphoné à Miles pour dire oh, « C'est vrai, est-ce que c'est vrai ?» Bien sûr que c'est vrai. Alors, ça m'a dit quelque chose. C'est que je suis batteur. C'est n'importe l'instrument.
La première chose que vous avez fait dès que vous avez eu un casque sur les oreilles, qu'on a branché ici dans le studio, c'est de taper sur la table. Direct.
Ça rend ma femme fou, mais...
Pourquoi le rythme, c'est presque plus important que tout pour vous? Comme si c'était, par exemple, pour reprendre l'exemple des Beatles, comme si c'était ça que vous aviez entendu, j'allais dire attendu, mais pourquoi pas, plus que la mélodie, plus que les guitares, plus que leur façon d'harmoniser ou d'être ensemble, c'est d'abord leur rythme.
Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. C'est très physique, peut-être c'est une manière de ressentir les choses dans le corps, parce que le corps c'est le centre de la musique, toujours, évidemment. Et je pense que c'est avec le rythme que le corps s'exprime le plus directement.
D'ailleurs, Sakamoto Hiromichi disait « Moi, je n'ai jamais composé avec mon cerveau, toujours avec mon corps et la mémoire de mon corps. »
Ça me donne, ça me sent... Omoshiro desu ne.
Ah, je ne sais pas traduire le japonais. Qu'est-ce que vous dites?
Very interesting. Mm. Yeah. Non, je pense que il a raison. Absolument.
Vous dansez en plus d'être un batteur.
Danser avec l'instrument. Il y a des gens, il y a une expression taking the notes for a walk. Prendre les notes pour un petit marché à pied. Moi, je préfère de prendre les notes pour danser.
Le souffle a trois temps. Il n'a pas que deux temps, inspire, expire. Il a trois temps. Et donc, le troisième temps, ce serait le temps du silence. Et c'est-à-dire un temps non pas d'arrêt, mais un temps de suspension. On expire, il y a un temps, et on est inspiré. Bon, en plus, je pense très très fortement qu'on n'inspire pas, on est inspiré. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Pour les artistes et pour les poètes. Et donc, ce temps, c'est un temps intermédiaire, mais ce n'est pas un temps pour rien. C'est un temps pour tout. C'est le vrai temps. C'est le temps qu'observent les Orientaux, en particulier dans les arts martiaux. C'est-à-dire le temps où on prend le temps d'attaquer, de savoir comment on va attaquer, comment on va faire le geste. Et le fait de préserver ce temps fait qu'on sort du binaire, inspire-expire, pour entrer dans le ternaire, qui est quand même une façon de vivre autre que le binaire.
Et ben voilà, on parlait de danse avec vous, Fred Frith, et c'est un chorégraphe qu'on entend, c'est Dominique Dupuis, ici au micro de Laura Adler en 2016, dans l'émission Heure Bleue. Il y a trois temps, le troisième temps, c'est celui du silence et de la suspension. Quelle place tiennent ces deux choses-là parmi les choses que vous aimez fabriquer, le silence et la suspension?
Suspension, ce que je comprends, je pense, c'est que le moment que tu ne fais rien, c'est aussi un moment de projection. Et c'est ce que je parle pas mal de ça avec des étudiants. parce qu'il y a une tendance, on joue, et puis on attend pour jouer encore. Mais ce qu'on fait pendant cette attente, c'est absolument critique. Il y a une manière d'attendre avec le corps qui dort. On attend que quelque chose qui se passe, et puis on a... Mais il faut, en fait, pendant qu'on attend, ça s'est projeté exactement la même comme si on jouait. Donc, la manière de projeter rien, c'est primordial, je pense, dans la musique. Cette projection de rien, c'est un... Et puis, et ces silences, c'est très important. Et c'est comme si, par exemple...
Oui, j'ai très envie de savoir.
Parce que comme ça, on veut attendre ce que vous allez dire après. Mais il y a une manière de dire quelque chose où on s'en fout ce qui va se passer après. Il faut garder l'attention des gens, de tension de ton corps en même temps. Donc, cette projection de rien, pour moi, c'est peut-être un peu dans le même sens que ce chorégraphe a dit. Le troisième temps.
Le troisième temps de la suspension et du silence. Mais alors, ça signifie que ce moment de ce qu'on appelle du silence, ça reste du silence, mais ce n'est pas rien. C'est un temps pour tout, comme dit Dominique Dupuis.
Yes.
Mais en même temps, par exemple, là, tout à l'heure, vous avez joué avec mon attention, avec mon attente de dire quelque chose. Bon, ça a marché. Mais il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire un peu semblant qu'on est en suspens, qu'on va dire quelque chose d'important. On peut jouer avec ça. Hier, il y a Emmanuel Macron qui faisait un discours. J'imagine qu'il y a un art de faire attendre ce qu'on va dire. Alors qu'il y a un autre art qui suppose qu'on est réellement dans la tension du geste qu'on va faire.
Ce qui est beaucoup plus intéressant, en fin de compte. Parce que l'autre, ça devient un genre de théâtre.
De pause.
Donc, oui, on montre quelque chose. Et parfois, les choses sont intéressantes et parfois non. Mais dès que ça devient théâtral, je pense que c'est moins intéressant que si c'est en fait une question de vivre, comme vous avez dit, en fait.
En voyageant avec le... la compagnie de danse de Merce Cunningham, nous arrivions en Arizona l'année passée. Et un des danseurs, Charlie Moulton, est allé pour voir le désert. Et il est revenu avec une pièce de cactus sec, mort et sec. Et il a mis près de mon oreille et a fait vibrer one of the spines.
Et pique les...
Oui. Et en quelques jours, j'ai mis un needle.
Une épingle.
Oui, dans le cactus. Et l'autre... un bout dans un cartridge et on peut le amplifier et on peut chercher sur le cactus de trouver une gamme de fréquences surprenantes. Et j'imagine maintenant une orchestre disons botanique. Thank you.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Fred Frith.
Pourquoi pour écouter celui-là, vous avez fermé les yeux en particulier ?
Ah, j'étais transporté.
Il s'appelle Evidence. C'est un morceau avec Laurie Anderson. Il est sur le dernier disque que vous avez fait paraître, qui rassemble plusieurs concerts.
Oui. Pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, dans un club qui s'appelle
ouais.
The Stone.
Ouais.
Et ça nous a paru, juste après ce que disait John Cage, d'un espèce d'idéal d'orchestre organique et botanique, être une bonne chose à faire entendre, parce qu'il raconte cette histoire du danseur qui part dans le désert, qui rapporte un cactus mort,
ouais.
Et avec lequel il cherche aussi peut-être pour l'histoire, quoi, une fréquence particulière. Et en fait, c'est presque un paysage que vous construisez avec Laurie Anderson qui a le naturel, entre guillemets, du cactus.
Ce que, tu sais, ce qui est pour moi un peu rigolo, c'est le fait que tout ça, c'est improvisé. On n'a jamais répété, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et puis on entend ça maintenant, ça a l'air très composé quelque part. Et je me rappelle que quand j'ai parlé avec Laurie, après, elle a entendu le disque. Et elle a dit, mais comment j'ai fait ça? Je comprends pas du tout. Mais qu'est-ce que c'était? Même maintenant, elle sait pas exactement comment elle a réussi à trouver ces sons-là. C'était une réflexion entre le jeu et le software, et elle ne pouvait pas dire. Et c'était la même chose après, avant le morceau que vous avez joué de solo, guitare solo avant. Quand ça s'est commencé, je me suis dit, mais qui c'est?
C'est
un peu comme moi. Parce qu'on oublie complètement.
Bien sûr, à la différence quand même, c'est que guitare solo, c'est le début des années 70. Là, c'est des concerts qui ont, mais bon, en même temps, comptent déjà presque 15 ans. Hein, donc, ça fait longtemps, finalement.
Oui, ça, oui. Mais je pense qu'un des plaisirs d'improviser, c'est l'art d'oublier les choses. Parce que chaque fois qu'on joue, on recommence de rien. Et donc, on réimagine et reconstruit et tout ça. Et puis, on oublie. Et donc, vous me passez des morceaux, j'ai dit, oh, mais c'est super, mais qui c'est?
Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comme la procédure, ou je ne sais pas comment on dit, Comment vous procédiez dans ce club-là? Donc il y avait deux concerts par jour, c'est ça?
Oui.
Par soir? Et c'était quoi les règles, en fait?
Les règles, c'est que on n'est pas permis d'entrer le club avant 6 heures, 5h30 au plus tôt, mais normalement 6 heures. On arrive à 6 heures, on s'installe.
Les musiciens, pas le public.
Les musiciens arrivent à 6 heures. Et avec ce genre de choses, c'est comme carte blanche à moi pendant 6 jours. Et donc 6 jours sur 7, on a deux concerts par soir, une à 8 heures, l'autre à 10 heures. Et donc on arrive à 6 heures, on s'introduit aux musiciens, j'ai invité des gens, normalement on se connaît mais on joue pas régulièrement et puis on n'a pas répété, on s'installe. Donc, 7 heures, normalement, si tout va bien, on a installé. Mais tout va pas. Il y a toujours quelque chose. Il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. Et puis, le pied ne marche pas. Et
un
puis,
câble.
Tout ça. Donc, normalement, on est prêt vers 7h30. Si on a de la chance, 7 heures, comme ça, on peut sortir rapidement et manger quelque chose. Mais normalement, 7h30, puis le public entre 7h30. Quand ça commence pile à 8h, et puis, normalement, c'est une heure, un peu plus. Puis, le public sort. Puis, un autre concert après. Donc, on doit reconstruire des choses, normalement, un peu différemment. Et ce qui est assez rapide, parce que le public va revenir dans une demi-heure pour le show à 10 heures. Puis, on fait encore une heure à 10 heures. Et puis, on va voir quelque chose. Et c'est comme ça tous les jours.
Et c'est une vie fatigante ou c'est une vie exaltante?
Fatigant, non. Non, c'est une joie. Non, j'aimais beaucoup cet intensif, tous les jours des choses différentes, avec les gens différents. Pendant une semaine, on vit ça au fond. Et puis après,
Il ressemble à quoi cet endroit?
C'est comme une petite magasin au coin dans le East Village de Manhattan. Donc, il a des fenêtres comme si c'était un magasin, comme un bodega. Puis il y a des sièges pour 80 personnes. La toilette, c'est arrière de la scène. Et c'est interdit de boire et de manger. Et donc, conditions un peu sévères.
On ne vient que pour la musique.
En hiver, c'est froid. En été, c'est très chaud. Et donc, par exemple, si c'est l'hiver, il y aura 60 personnes dans la rue qui attendent qu'on est prêt. C'est un peu sauvage, il faut les faire rentrer, sinon ils vont être gelés avant qu'on commence. Donc c'est comme ça, c'est un peu flexible.
Ils ont eu quoi comme importance ces endroits-là à New York pour vous, Fred Frith? Lorsque vous découvrez cette ville, lorsque vous découvrez ces endroits où se joue ce qu'on appelle une musique vivante, improvisée, ça a changé quoi dans votre parcours?
Ben, c'est que ça vient et ça part. C'est-à-dire que quand j'arrive à New York en 78, il y avait plein d'endroits où on pouvait jouer. C'était ça, ce qui était déjà remarquable. C'est une des raisons que je suis parti de Londres pour y aller. Parce qu'il y avait des possibilités partout. Il y avait une présence médiatique qui suivait les choses nouveaux. Donc, on avait l'impression que ce qu'on en faisait était important. Et on pouvait faire la musique improvisée en The Mud Club, des gens plutôt disco. C'était un peu mélangé. Ça durait 2-3 ans. Et puis tout est disparu, sauf il y avait The Knitting Factory, qui était en fin de compte le seul endroit qui supportait, I can't remember this word. Which helped.
Qui aidait, qui encourageait.
Ouais, encourageait les musiques différentes. Et puis, il y avait Zone qui a ouvert une boîte qui s'appelle Tonic. Et Tonic, c'était un peu le précurseur de Stone. Et puis, que Tonic est parti, puis il a convaincu quelque chose de laisser louer un petit endroit de Stone qui durait longtemps. Et la significance, l'importance de cette boîte, c'est que c'était les musiciens même qui géraient le programme. Ce n'était pas curated, c'est-à-dire que John invite des gens, et c'était pas ses amis forcément. Oui, évidemment, il y avait des uns, mais il y a aussi des gens qui pensaient qu'ils devaient les donner une voix. Donc il y avait des possibilités pour les gens qui pouvaient jouer pas du tout ailleurs, mais dans le Stone, c'était possible. Et chaque jour, c'est vous, les musiciens, qui décident ce qui va se passer, c'est pas Johnson. Donc dès qu'il a donné la carte blanche, il laisse, vous faites ce que vous voulez.
Je crois que vous le remerciez dans ce disque à John Zorn. Vous lui... C'est une des personnes à qui vous le dédiez. Et je crois que vous dites pour la vision. C'est ça ou pas?
J'ai pas compris.
Dans les dédicaces, dans ce disque,
oui.
Je crois que vous le remerciez.
Ah, John pour la vision.
Zorn, pour la vision.
Ouais. Et c'est vrai, c'est important. C'est lui qui a eu la vision que cet endroit pouvait élargir et enthousiasmer une génération de musiciens. Et ça l'a fait en plus. Et maintenant c'est fini, mais il y a le Stone at the New School, donc c'est maintenant encadré dans un contexte académique, et on va, je ne sais pas encore si ça marche. Je vais jouer une semaine en septembre, donc je vais savoir.
Il y a une autre personne à qui vous pensez dans les dédicaces, c'est Pauline Oliveros. On a cherché des archives et puis bon, on s'y est pris trop tard et c'était des archives en anglais. Mais j'aimerais bien que vous disiez deux, trois mots de cette femme-là, de cette musicienne.
Elle était collègue de moi à Mills College, donc j'ai rencontré en tant d'être collègue et partenaire dans le cadre académique. Mais on se comprenait très bien, très vite. Par exemple, quand j'arrivais à Mills, c'était un collège de femmes. Mais c'est illégal en Amérique d'avoir un programme, graduate program, que pour des femmes. Donc c'est mélangé à graduate level. Et j'ai remarqué qu'il y avait une énorme majorité d'hommes. Et j'ai dit à Pauline, comment ça qu'il y a dans cette renommée collège de femmes, qu'il y a tellement d'hommes dans le... Elle a des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on a fait des recherches et créé un article pour essayer de rebalancer un peu les choses, qui a marché un peu.
Et comment vous avez fait?
Elle et des autres collègues ont fait une espèce de questionnaire.
Un questionnaire.
À plein de femmes qui sont sorties de... cadre académique américain pour savoir ce que c'était que leurs expériences et pourquoi elles pensaient que c'était comme ça. Et on a eu des réponses assez intéressantes, pas tellement ce qu'on attendait parfois, mais par exemple, quand on voit que le pourcentage de compositrices qui sont dans les facultés des universités américaines, 2%. Et pour les femmes qui veulent être compositrices, l'idée qu'il n'y a que des hommes qui vont à fin, ça change leur désir. Parce que c'est très traditionnel que les hommes professeurs de composition sont un peu vers les femmes. Et Pauline, par exemple, m'a raconté qu'elle était dans une classe de composition dans les années 50 avec Terry Riley et 20 autres, tous hommes. Elle était la seule femme dans cette classe. Et chaque fois que c'est elle qu'elle va présenter ses compositions devant le professeur, les autres 19 partaient. Alors c'est juste elle et Terry Riley qui ont resté pour écouter ces choses. Et le reste des hommes ne voulaient pas. Et ça, c'est des années 50. Mais est-ce que ça a vraiment changé? Oui, un peu. Mais il y a quand même long way to go.
Ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Fred Fries, parce que pour tout vous dire, on a remarqué qu'on vous faisait entendre des archives d'hommes, de compositeurs hommes, et que dans l'affiche, par exemple, dans les invitations que vous avez lancées pour Montreuil, c'est très partagé. Je sais pas, j'ai pas fait le compte exactement, mais vous jouez autant, vous avez autant eu envie de jouer avec des musiciennes qu'avec des musiciens. Et finalement, tout au long de votre parcours, voilà, on entendait Laurie Anderson, on parle de Pauline Oliveros. J'ai l'impression que vous avez été aussi vers des femmes musiciennes.
Oui.
Peut-être pas autant, mais beaucoup.
Oui, mais autant.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, il faut... Si on veut changer les choses, il faut être conscient. J'étais dans un groupe Henry Cow qui avait 3 hommes et 3 femmes. J'étais éduqué par Lindsay Cooper, beaucoup. pour réfléchir sur la situation. Moi, j'étais un homme comme tous les autres, conditionné et tout le reste. Donc, depuis, je suis un peu... C'est un peu une mission, s'il y a des opportunités, de toujours inviter des femmes, de toujours être conscient de ça. Quand je fais un stage, je demande que les stagiaires doivent être également divisés. Ça ne se passe jamais, mais au moins je demande. Je rappelle, j'ai fait un stage en Cité de Mexique, et il y a une conférence de presse avant, et il y avait une journaliste qui dit, est-ce que vous pouvez expliquer comment c'est seulement les hommes qui sont permis de faire ça?
Et de faire quoi, de la musique improvisée?
Oui, et j'ai dit, c'est pas vrai, les femmes sont bienvenues. Elle a dit, really? Et le soir, elle est venue avec 20 femmes.
Ben voilà, c'est super.
Et c'était extraordinaire. Il y avait 40 personnes et les hommes étaient un peu... Ils avaient un peu peur, mais ça marchait très bien. Mais il faut créer des opportunités comme ça. Il faut être conscient de ça, c'est tout. Je pense que c'est comme ça que les choses se développent, pour le mieux.
Puisque vous parlez de Henry Cole, on l'écoute. C'est un titre de 72 et le titre, j'adore, c'est Se tenir chaud en plein hiver. Keeping warm in winter, ça fait penser à ce public que vous faites attendre de manière sérieuse en dehors du club de Stone. Au tout début, Fred Frith, quand on a lancé le morceau, vous avez levé les yeux au ciel, l'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est vrai que je n'ai pas reconnu du tout. En fin de compte, je commençais à rappeler après. J'ai eu l'accord majeur, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est maintenant.
Quand il y a un accord majeur qui passe, ça va, ça rassure tout le monde.
Ouais.
C'est bon signe de se demander ce que c'est finalement, non?
Je pense, oui, c'est pas embarrassant.
Ah oui.
Non, mais c'est bon. C'est que pour moi, si je suis en train d'écouter quelque chose que je ne reconnais pas et ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien dedans, hein. Eh bien, c'est moi, ou c'est nous. Ça, c'est merveilleux.
On fête donc votre anniversaire, vos 70 ans, en ce moment, aux Instants Chavirés à Montreuil, en Ile-de-France. Et vous disiez tout à l'heure que vos derniers mandats d'enseignant se termineront l'année prochaine. Ça va ressembler à quoi, votre vie de musicien après, complètement dégagé de vos enseignements, Fred Fritz?
Bon, je pense que mes enseignements n'ont rien à voir avec le dégagement. Je pense que les jeunes musiciens sont super ouverts, très très ouverts à des choses différentes. Ils sont pas avant quand moi j'étais jeune, c'était il faut spécialiser, il faut faire cette ligne là aussi. Si vous faites deux lignes, c'est déjà confusant, donc il faut rester là. Maintenant, les gens s'en foutent de tout ça.
Non, mais vous allez faire quoi une fois que vous allez arrêter complètement d'enseigner? Ça va ressembler à quoi votre vie de musicien?
Oh, ma vie de musicien, ça va continuer comme il est. Là, je compose, je fais des concerts, je fais des collaborations, je fais des musiques de films, je compose pour les chorégraphes. Je pense pas que ça va arrêter. Pourquoi?
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Fred Fritz. On mettra quelques références de disques, il y en a tellement. On mettra le dernier quoi sur le site internet. Et puis des liens vers les concerts Montreuil-Oise, même si je crois que c'est assez complet.
Hier, c'était complet. Okay. Je pense que les deux, maintenant, il y a des places.
Donc on mettra aussi les informations pour ces concerts. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dois vous inviter à tous et toutes à aller écouter Gatsby le Magnifique avec Sofiane Zermani, Rebecca Marder, la comédie française, Pascal Rénéric sur une musique originale d'Issam Krimi. C'est Sofiane Zermani, plus connue sous le nom de Fianso, qui jouera Gatsby le Magnifique. C'est donc le 2 et 3 mai à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio et on peut s'inscrire sur maisondelaradio.fr. On peut même réécouter l'entretien qu'on avait fait ici avec Sofiane dans Parlez-t-on qui court. À la prise de son ce soir, c'était Frédéric Changenet, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Valentin Rémy, Marianne Chassor, Romain Debec-de-Lièvre et Jeanne Aléos qui m'aident à penser, préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, c'est le journal de 22h sur France Culture. Toutes les infos sur franceculture.fr à la page de Parlez-t-on qui court, dont le podcast. Et pour nous, c'est à lundi.